expérimenter, imbriquer une certaine unité, en ce sens que je peux comparer. Et cela, on retrouve souvent, même dans notre vie, et chez beaucoup d'artistes, des comparaisons entre les diverses qualités sensibles, c'est-à-dire les diverses sensations. Et c'est pour ça qu'Aristote va poser une puissance particulière qui est comme la synthèse de toutes les sensations. Et il l'appelle le sens commun. C'est très intéressant de voir que le sens commun chez Descartes, une signification tout autre. Le sensus communis, pour Aristote, c'est la puissance qui permet d'unifier les diverses sensations et de voir qu'il y a dans les diverses sensations certaines comparaisons qu'on peut établir. Je ne vais pas insister, c'est simplement pour vous rappeler cela. Ce qui est beaucoup plus important dans notre connaissance sensible, c'est de voir le point de vue de l'imagination. La fantasia, en grec, et qu'on retrouve ça chez les Italiens. La fantasia. L'imagination. L'imagination, c'est une connaissance qui provient directement de nos sensations. Sartre a été très attentif à l'imagination. Il a fait des remarques du reste intéressantes. Il n'y a pas tellement de philosophes qui ont parlé de l'imagination. Aristote, le premier. Puis il faut attendre assez longtemps. Voir comment, de fait, on a parlé d'imagination. Saint Thomas n'en parle pas beaucoup en théologien. Mais quand il commente Aristote, il en parle. Puis ensuite, il y a Kant. C'est une des choses les plus intéressantes chez Kant. C'est peut-être le moyen d'entrer le plus facilement dans la pensée de Kant, c'est par le point de vue de l'imagination. Puis Sartre de nos jours. L'imagination, c'est une connaissance sensible, c'est la connaissance de la représentation. Quand vous avez vu quelqu'un, vous pouvez fermer les yeux et vous vous représentez cette personne. C'est une connaissance de l'ordre de la représentation. Vous produisez une image, une icône, en grec, l'icône c'est l'image. Vous produisez au-dedans de vous-même une image. Votre imagination, elle marche beaucoup dans les rêves, dans les cauchemars. Vous avez l'imagination qui à ce moment-là va bon train. Vous n'avez pas toujours conscience. Il semble bien que les animaux aussi aient une imagination. Au-delà de leurs sensations, au-delà de ce toucher immédiat, il y a cette capacité qu'on a d'une certaine synthèse. L'imagination fait des synthèses curieuses. Elle rassemble des choses. Et elle produit des images. Alors, il y a ceci de très particulier dans les images. C'est qu'ordinairement, dans les images, les sensibles communs prennent le pas sur les sensibles propres. Vous n'avez qu'à réfléchir sur vos images. Fermez les yeux. Et Imaginez-vous la personne qui est juste à côté de vous, en face de vous. Vous voyez que tout de suite dans l'image, les sensibles communs prennent le pas sur les sensibles propres. C'est une chose très curieuse, il y a comme une espèce de renversement qui se fait de l'ordre de la connaissance. Et des psychanalystes que je connaissais à Paris, qui s'occupaient beaucoup des rêves, une fois m'ont fait cette remarque, parce que j'essayais de voir un tout petit peu comment ils interprétaient les images. C'est toujours intéressant de voir ça, comment on peut interpréter des images. C'est de l'ordre de l'interprétation, c'est une connaissance symbolique, les images. Il faut les interpréter. C'est pas toujours commode d'interpréter les images parce que il y a des tas de choses qui restent et qui peuvent revenir très longtemps après. Quand vous avez eu des frayeurs extraordinaires par rapport à un gros chien qui vous a mordu, il reste quelque chose. Ou par rapport à quelqu'un qui vous a fait peur dans votre jeunesse, ça reste. Et ça revient quelquefois dans les cauchemars. Et bien, ces psychanalystes faisaient cette remarque que lorsque quelqu'un est très fatigué, fatigué même à être malade, qui n'a plus de contact avec le réel, ses rêves sont des rêves dans lesquels il n'y a plus que des sensibles communs. C'est pas eux qui disaient ça, c'était moi qui traduisais. Hein. Eux-mêmes écrivez leurs rêves. Il n'y a plus que les sensibles communs. Vous voyez, dans les cauchemars, c'est presque toujours des sensibles communs. Vous avez peur de la multitude de gens qui montent vers vous. Vous êtes coincé. Vous êtes enlisé. C'est toujours le point de vue du mouvement ou de l'immobilité ou du nombre ou de la figure. Auditive. d'imagination tactile. Vous avez beaucoup moins d'imagination tactile. Ainsi que du goût. Quoique, ça peut arriver. Bonne cuisinière a des imaginations du côté du goût. Elle fera des tartes au citron pour lier telle ou telle chose à la différente matière. Et puis elle les présentera différemment. Elle fera ses combinaisons extraordinaires. Et ainsi de suite. Notre imagination se nourrit de nos sensations. C'est pour ça qu'il est bon de renouveler son imagination. Notre imagination ne nous repose pas. Ce sont nos sensations qui nous reposent. Notre imagination, au contraire, nous fatigue. Quand on a l'imagination qui bat toujours la campagne, il faut revenir vite aux sensations. Et revenir vite aux sensations, c'est apaiser l'imagination. Parce que ordinairement, quand on est agité, ça provient d'imagination. C'est l'imagination qui agite. Vous voyez, quand il y a plus beaucoup de contenu sensible, l'imagination devient un mouvement constant. Et pour apaiser l'imagination, parce que quand on dort plus, c'est à cause de l'imagination. Quand vous avez des insomnies, vous avez de la peine à vous endormir. Je suis tendu. Il faut revenir aux sensations. Et les sensations externes apaisent toujours. Parce que notre capital de vie est limité. Alors si on est très attentif aux sensations externes, on reste dans le contact avec la réalité. Tandis que l'imagination nous sépare du réel. L'imagination nous sépare du réel et nous fait vivre notre monde à nous. Un monde quasi infini. Vous pouvez toujours y aller dans l'imagination. Il n'y a pas de limite. Dans les sensations, vous êtes limité par le réel. Le réel qui est extérieur à vous. Tandis que dans l'imagination, il n'y a pas de limite. C'est quasi infini. Vous pouvez toujours en ajouter. C'est pour ça que c'est si fatigant. Et c'est pour ça que c'est l'imaginaire lié aux passions qui nous feront déraper, perdre le contact avec le réel. L'imaginaire, on l'a dit, c'est la folle du logis. Et c'est vrai, c'est très important l'imagination. Vous comprenez, pour un artiste, c'est capital. C'est capital l'imagination pour un artiste. Mais chez l'artiste, l'imagination est canalisée. J'allais dire, elle est rendue humaine grâce à l'intelligence. Toute l'inspiration, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire. Mais c'est pas du pur imaginaire. Le pur imaginaire n'est pas artistique. Il peut être romantique. Vous allez vous laisser bercer par l'imaginaire parce que le réel est tellement triste que j'aime mieux encore être dans mon rêve. Mais les drogues agit sur l'imaginaire de façon étonnante. Alors, vous construisez un monde qui est le vôtre, et ce monde de l'imaginaire vous sépare du réel. C'est le monde du planeur. Vous voyez bien le planeur, il plane. Il se laisse porter. L'imaginaire pur, on se laisse porter. Et on va, on ne sait pas où. C'est ça qui est très très curieux dans le domaine de l'imaginaire. On porte ça en soi. Et on ne sait pas où on va. C'est la fantasia. Avec l'imaginaire, et de la réminiscence. Les souvenirs, vous vous rappelez quelque chose. Et vous voulez vous en rappeler. Et vous vous l'imaginez pour vous le rappeler. Vous ne pouvez pas vous rappeler en dehors de l'imagination. Vous dites, ah, tiens, quelle tête j'ai vue là. Oh oui, je me souviens. Et quel endroit vous reconstruisez. Alors la différence entre l'imagination et le souvenir, la mémoire, la réminiscence, c'est que dans la mémoire intervient le facteur temps. Parce que vous arrivez à situer, à localiser, et à mettre dans le point de vue du temps, vous ordonnez. La mémoire implique un certain ordre. La mémoire est déjà, vous voyez, c'est une connaissance particulière qui veut ramasser la succession des sensations. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus organique et organisé, la mémoire, que l'imagination pure. Et même le facteur temps dans la mémoire fait presque toujours intervenir l'intelligence. Ça, nous le verrons. Parce que la sensation pure ne me fait pas saisir le temps. La sensation, elle est dans l'instant présent. Comment se fait-il que l'imagination qui fait des synthèses particulières dans l'ordre des qualités sensibles, et surtout à partir des sensibles communs. Parce que ça, c'est très important. Ce sont les sensibles communs qui permettent les synthèses. Pas les sensibles propres, puisqu'ils sont indivisibles. Vos images sont toujours à base des sensibles communs. Puisque vous pouvez opposer, au contraire, unis, grâce aux sensibles communs. Les sensibles propres étant indivisibles, sont comme des touches. Et vous ne pouvez donc pas les synthétiser. Toute synthèse imaginative est à base des sensibles communs. Mais les sensibles communs ne vous donnent pas le sens du temps. Le temps n'est pas un sensible commun. Le temps est une donnée beaucoup plus intellectuelle, tandis que la figure est localisée. C'est pour ça que l'ordre dans le lieu est plus propre du sensible que l'ordre dans le temps. C'est toujours très important ça, de comprendre ça, parce qu'au fond, nous avons deux manières d'ordonner. Nous ordonnons par le point de vue du lieu. J'ai rencontré telle personne à tel tournant. Quand on va en automobile, la question de l'ordre du temps est très important, plus de l'ordre du lieu est très important, plus que l'ordre du temps. Parce que les accidents, ça provient qu'on n'est pas là où on devrait être. La question de l'ordre du temps est beaucoup plus liée au sensible. Tandis que c'est l'intelligence qui pense l'ordre successif qui existe dans le temps. C'est un ordre qui provient beaucoup plus de l'intelligence. Je crois que les animaux ont le sens de la localisation. Vous voyez, dans une étable, une vache ira toujours dans son même lieu. Et la question du temps, c'est lié au soleil, c'est pas pensé. Nous, c'est lié au soleil, au point de vue de la sensation, mais c'est pas encore le temps. mémoire et notre mémoire, parce que la mémoire des animaux, je sais pas très bien ce que c'est. Alors, il doit y avoir une certaine mémoire chez le chien, la fidélité du chien, c'est une certaine mémoire. Mais je ne crois pas du tout que c'est une mémoire organisée comme la réminiscence. Vous arrivez à vous rappeler progressivement certaines choses par les couches successives, les couches archéologiques dans le temps. Ah oui, oh, ce souvenir, oh, ça me fait penser, il y a 25 ans de ça, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou si cette année. Oui. Les différents souvenirs, vous les situez dans le temps. Et en les situant dans le temps, vous les organisez beaucoup mieux. Mais ça reste du sensible. Mais il y a une donnée de l'image et de l'intelligence qui intervient dans ce sensible pour organiser le passé, le présent et le futur.
Thank you.
pour ça que ça fait perdre le contact avec le réel. Et ça augmente d'une certaine manière l'imaginaire, tout en le diminuant. Alors c'est un procédé très curieux qui serait très intéressant à étudier. Parce que l'imagination peut très bien se développer à partir d'images projetées. Alors vous êtes en face de l'imagination au carré. Ce n'est plus une imagination qui se développe à partir des sensations. Vous êtes en présence d'une imagination qui se développe à partir d'images. C'est donc une image d'image. Un peu comme le cinéma. C'est très curieux de regarder ce que représente le point de vue du cinéma à la différence des grands arts. Des arts classiques, si vous voulez. Les arts classiques mettent en pleine lumière nos diverses sensations. Vous voyez la peinture. La peinture met en pleine lumière la lumière. C'est une mise en lumière des sensations. La musique, le son, la sculpture, le toucher. Quand vous voyez une statue, vous avez absolument le besoin de la toucher. Quand vous êtes dans des musées qui vous interdisent de toucher, c'est plus fort que vous. Vous touchez. Et puis la sirène marche. Parce que c'est impossible. Une statue, elle est faite pour être touchée. Toute sculpture est faite pour être touchée. Et le sculpteur, c'est l'alliance du toucher et de la vue. Et alors vous avez des arts moins importants. Mais quand même, celui des parfums. C'est très curieux de voir comment les parfums s'inventent. Parce que c'est quelque chose de particulier de voir la manière dont l'imagination se sert du sens de l'odorat. Pour arriver à vers certains parfums. Je me souviens une fois, j'étais pris en autostop par un grand spécialiste d'une des meilleures maisons de parfums. Il était, lui, inventeur des parfums. Pendant 2 heures, j'ai bavardé avec lui, ça m'a intéressé énormément, au point de vue philosophique, de voir comment il avait inventé tel ou tel parfum. C'était son métier, mais c'était un artiste. Évidemment, pas le grand art, mais quand même un art. Le cinéma. Très intéressant de voir le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma met en lumière au point de vue de la sensation? Comme la télévision. C'est en premier lieu les sensibles communs. Pas uniquement, hein, pas uniquement. Les films de grand art mettent en lumière les sensibles propres. Et les films moins bons des sensibles communs. On ne voit pas ça dans les critiques d'art. Ça devrait exister, ça. Parce qu'on verrait tout de suite la qualité de l'image suivant la mixture des sensibles propres et des sensibles communs. Oui, les sensibles communs n'éduquent pas. C'est les sensibles communs, les sensibles propres qui éduquent et qui éveillent et qui alors produisent ensuite votre domaine d'imagination. Mais voyez, quand vous êtes en face des sensibles communs, vous êtes déjà en face d'images. Les images peuvent produire d'autres images. diminuera l'inspiration, puisque les sensibles propres ne sont plus mis en pleine lumière. Alors là, il faudrait être très attentif à ça, mais nous portons en nous un milieu culturel par l'imagination et par nos sensations. Et par nos sensations, nous renouvelons ce milieu culturel. Le milieu le plus intime, qui est notre milieu, mais c'est notre imagination. Ce sont nos souvenirs, c'est notre réminiscence. Alors, si de fait ce milieu est nourri par des images au niveau intentionnel et non pas par nos sensations, qui nous unissent directement à la réalité, il y a une usure qui se fait. Et cette usure fait que nécessairement notre imagination ne pourra plus être aussi fertile. Et ceci aura une répercussion immédiatement dans l'inspiration. Je crois qu'il faut y réfléchir là-dessus. C'est très important. Parce que c'est quand même nous qui sommes responsables de la culture humaine. Dans une certaine mesure. Pour les enfants. Il faut comprendre que des enfants qui sont toujours auprès de la télévision, c'est pas bon. Et je suis persuadé les images qui ne se rapportent plus à la réalité vont augmenter les angoisses. Parce qu'il n'y a plus contact avec le réel. Alors je reviens là-dessus parce que je crois ça capital au plan philosophique. Je crois capital au point de vue philosophique. Que le réalisme, toujours nos sensations externes. Et nous devons toujours revenir à ces sensations externes. Je vous ai dit tout à l'heure que nos sensations externes, la vision, le toucher, c'est une connaissance de qualité qui ne sont pas nous. Évidemment, toutes les sensations ont un mode intentionnel. Mais cet intentionnel des sensations a ce privilège d'être en contact direct avec le réel. C'est l'intentionnel premier de la connaissance, fondamental, qui est directement lié au réel. L'imagination, c'est une connaissance seconde qui demeure dans l'intentionnel. C'est donc un intentionnel au carré. Et quand je dis un intentionnel au carré, je veux dire que le réel est déjà loin. Alors, c'est extraordinairement brillant. C'est quelque chose qui peut me séduire, toutes ces images. Mais c'est quelque chose de second. Et je demeure dans l'intentionnel, imaginaire. C'est quelque chose de réel, imaginaire. Quand vous dites, ah, ce malade, il est malade. C'est un malade imaginaire.
Mais vous oubliez que l'imagination, c'est quelque chose de réel. Mais que c'est vrai que la connaissance imaginative et de l'imaginaire, c'est de l'ordre de l'intentionnel au carré. Les souvenirs, c'est un intentionnel triple. Tous les souvenirs sont passés par l'imaginaire. Alors voyez, quand vous voulez vous renouveler par une intentionnalité imaginative, le cinéma, la télévision, vous ne vous renouvelez pas entièrement parce que vous n'avez pas le contact avec le réel direct. C'est, je crois, très important cela. Si l'angoisse, c'est l'oubli de la sensation externe, c'est l'oubli de l'expérience immédiate. Je crois que c'est ça, l'angoisse. On est angoissé quand on est en présence de certaines images qui s'imposent à moi, dont je ne connais plus l'origine. Quand je connais l'origine, ça m'apaise. Mais quand je ne connais plus l'origine, je suis pris par cette angoisse qui m'enlise. Et donc c'est bien l'intentionnel au carré de l'imaginaire qui n'étant plus relié aux sensations externes risque de me bloquer et de m'envelopper complètement. On a tous vu, je me souviens, on a tous vu des êtres que nous aimons et qui sont pris par le point de vue de l'angoisse. Je me souviens, c'était un étudiant à Fribourg, un Valaisan, et pourtant les Valaisans ont les deux pieds sur terre ordinairement, parce qu'ils sont pas loin du paysan. C'était un jeune étudiant que j'aimais beaucoup. Un jour, il est arrivé en disant: mon père, je suis complètement angoissé. Ah, je dis: quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oui, je lis depuis quelque temps Heidegger. Il dit qu'il faut entrer dans la philosophie par l'angoisse. Alors, j'essaie de me mettre dans l'angoisse. Et maintenant, je crois que j'y suis. Mais je voudrais bien en sortir. Mais la drogue fait ça. C'est l'imaginaire. C'est difficile d'en sortir. Un monde angoissé. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec lui? J'ai dit: reprenez l'exercice de vos sens externes. Soyez attentifs quand je vous parle, je vous tiens la main. Regardez ce que vous voyez. Ne vous enfermez pas en vous-même. Essayez d'être attentif à ceux qui sont proches de vous. Et faites cet exercice tous les jours. Pendant au moins un quart d'heure, soyez attentif à ce qui est près de vous. Alors, le lendemain, déjà, il est revenu en me disant: vous avez raison. Je m'efforce de quitter cet imaginaire dans lequel je m'étais complu. Je m'étais enfermé. Vous voyez, c'est ce contact direct avec le réel. Avec le réel, c'est-à-dire ce qui est extérieur à nous, ce qui n'est pas nous, qui n'est pas l'intentionnel, qui rectifie et qui me permet de comprendre que l'imaginaire l'imagination, c'est très bien. Il faut de l'imagination. Mais s'enfermer dans l'imagination, c'est terrible. Parce que c'est les sensibles communs du vécu que je reconstruis comme je veux et qui ne me mettent plus en contact avec le réel. Alors je suis enlisé. C'est l'image de celui qui est enlisé. Alors, dernier point de la connaissance sensible. Je ne m'attarderai pas. Je reviendrai peut-être un instant la fois dernière. C'est ce que saint Thomas appelle la cogitative. La cogitative, ne vient pas d'Aristote. Aristote n'en parle pas. Ce sont les Arabes, Avicenne, qui parlent de la cogitative. C'est les Arabes, c'est lui qui, travaillant Aristote, à travers le néoplatonisme, ont posé cette nouvelle connaissance, cette dernière connaissance, au niveau sensible, qui est la cogitative. Et chez les animaux, ils disent l'estimative. C'est la sensation liée à l'état affectif. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler tout de suite maintenant. Il faudra en reparler après l'aspect des passions. C'est une connaissance affective de la situation dans laquelle je suis. Je distingue tout de suite ce qui me convient, ce qui est bon pour moi. Si ma cogitative était suffisamment nette, je saurais que situer mon lit de telle ou telle manière me permettrait de mieux dormir. C'est très curieux, ça. Ça, c'est la cogitative. De manger tel ou tel aliment serait plus facile pour moi à digérer. Ça, c'est la cogitative. C'est mon bien, ce qui me convient, dans l'ordre sensible. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On n'a plus beaucoup ça parce qu'on est très, très habitué au raisonnement. Mais ça fait partie, je crois, du champ magnétique dans lequel on se trouve. On a un lien avec certains aliments, avec certaines choses, avec certaines situations. Et on comprend ça tout de suite. Vous voyez, les bêtes, les chèvres, sentent tout de suite les herbes qui sont bonnes et les herbes qui sont mauvaises. Tandis que l'homme, n'ayant plus beaucoup de cogitative, peut prendre des champignons empoisonnés et il s'empoisonne. Il n'a pas eu ce réflexe sensible de dire tout de suite « ça, ça ne me convient pas ». Certaines personnes l'ont. Et beaucoup de